Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
Alors, Mathieu, le torchon brûle entre les policiers du SPVM et la Ville de Montréal. Explique-nous cette situation.
Alors, double situation, a été nommé comme conseiller sur les questions de diversité, de profilage racial et ainsi de suite, un homme, qui un ancien policier de la GRC, M. Babineau, si je ne me trompe pas sur son nom, qui est par ailleurs associé à un think tank, la Fondation pour les relations raciales, qui est un think tank, on pourrait dire, vraiment racialiste type, là, c'est-à-dire qui travaille depuis longtemps, qui est depuis 13 ans, depuis un bon moment engagé sur ces questions-là, et qui ne s'est jamais distingué par sa modération. Autrement dit, pour légitimer une espèce de virage sur toutes les questions qui prennent beaucoup de place dans l'actualité, eh bien, la ville décide finalement d'embaucher un militant qui fait carrière sur le procès des services policiers, et plus encore, un militant qui prétend renifler, c'est particulier le profilage racial, il prétend le renifler à l'odorat. On comprend que c'est une image, mais dans les circonstances, autrement dit, nul besoin de le documenter. Il suffit d'en avoir l'intuition pour le prouver. Donc, élément 1. Élément 2, au même moment, je devine que tu as vu hier, c'était à Radio-Canada, un reportage assez intéressant de Pascal Robida sur le phénomène de désengagement des policiers. C'est-à-dire les policiers de plus en plus disent, eh bien là, vu les circonstances aujourd'hui où on fait notre métier, tout le monde filme tout le monde tout le temps, il suffit qu'une intervention avec une personne dite racisée, on intervienne, elle soit filmée, on en diffuse un extrait sur les réseaux sociaux, pas au complet, le contexte n'est plus là, ne reste plus que l'extrait, eh bien ça suffit pour faire une espèce de procès public en racisme et ainsi de suite, de ruiner une carrière et tout ça. Donc plusieurs policiers disent, ben désormais c'est pas compliqué, quand je vois certaines situations où je devrais intervenir normalement, je ne le fais pas, car je tourne la tête si jamais il y a un souci, parce que je redoute de, justement une espèce de procès injuste qui nous tombera dessus. Donc ce qui émerge à travers ces deux dossiers-là qui frappent en l'espace de quelques heures, c'est la question. Le procès très très sévère fait contre les services policiers depuis un an, mais pas seulement, ça date depuis un temps, mais le procès très sévère, les policiers commencent à réagir d'une certaine manière en disant, un instant, tout ce que vous dites de nous, là, tout ce procès, nous ne sommes pas obligés de plaider coupable à toutes les accusations injustes. Ce n'est pas parce que certains militants nous accusent de quelque chose que ça devient vérité révélée. Ce n'est pas parce que des collectifs qui prétendent vouloir défendre la police, hein, définancer la police, la désarmer, la démanteler, l'abolir. Eh bien, c'est pas ces gens-là n'ont pas la vérité révélée. Et j'ai l'impression qu'une partie des gens, discrètement, hein, à l'abri du regard public, en dissimulant leur voix presque, mais certains policiers commencent à dire « Là, ce procès-là, il est injuste et il est temps qu'on réponde. » Chose certaine, la ville ne devrait pas faire la guerre à ses policiers. Les choses sont plus complexes. Le portrait caricatural qu'on en fait depuis un an est injuste.
En tout cas, rendons à Mathieu ce qui appartient à Mathieu. Lorsqu'on avait annoncé à la Ville de Montréal la création de ce commissariat à la lutte au racisme et à la discrimination systémique, tu avais dit, toi, ça ressemble une patente à gosse qui va devenir un nid de militants, ce qui est arrivé.
Non, mais il n'a nul besoin d'avoir des talents prophétiques ou des divinatoires pour ça. Hein. Il suffit simplement de prendre... Quand on crée une bureaucratie militante autour d'un programme idéologique, eh bien, inévitablement, ça va se remplir d'idéologues dont le travail consiste à prouver, à faire la preuve, à démontrer leur nécessité, leur efficacité, mais plus encore, démontrer leur nécessité. Donc, quand on a une bureaucratie qui a pour fonction de lutter à temps plein contre le racisme systémique, eh bien, la condition de l'expansion de cette bureaucratie, c'est d'étendre de plus en plus la catégorie du racisme systémique à toute une série de phénomènes sociaux qui n'y correspondent pas. Donc là, c'est le propre des bureaucraties que de se trouver des raisons d'exister, de s'étendre et de durer. Or, quand on avait vu ça avec Mme Mamaille, nommée par Mme Plante, c'était évident que cette bureaucratie avait pour fonction d'institutionnaliser un procès en permanence contre l'administration montréalaise, accusée de pécher, pour reprendre de la formule un peu à la mode, d'être dominée par la suprématie blanche. Bon, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant, en fait. Il suffit de prendre au sérieux la sociologie des organisations, la sociologie des bureaucraties, et de comprendre que les idéologues prennent au sérieux leur propre travail pour qu'on comprenne où est-ce que ça va se diriger, où est-ce que ça va aller.
Et Mathieu, là, ce que dit Pascal Robida là, dans son reportage de Radio-Canada, comme quoi il y a des policiers qui veulent même plus faire des arrestations auprès de personnes racisées parce que ça devient trop compliqué. Tu vois à quel point l'antiracisme primaire, l'antiracisme hystérique, à quel point ça a des résultats des fois contre-productifs. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire dans des quartiers à majorité noire, là, je pense par exemple Montréal-Nord, là, où il y a beaucoup de gens noirs, il y a de la criminalité parce qu'il y a de la pauvreté. Et là, les policiers vont dire « fuck off, regarde, je vais même plus là, je fais même plus d'arrestation, tout ça ». Et qui vont être les premières victimes de ça? Ben, les familles noires qui demeurent là, tu comprends? Ou ils seront plus protégés par les policiers?
Mais ça c'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans des situations où si la police refuse ou commence à se dire on intervient moins dans ces endroits-là parce que le prix à payer est trop élevé pour une intervention et on va se faire accuser de tous les noms d'une manière ou de l'autre, eh bien, ceux qui vont payer le prix, ce sont les gens qui habitent là puis qui ont absolument rien à se reprocher. C'est-à-dire, puis qui sont l'immense majorité, vous le rappelez. Donc, on tolère dans les faits une forme de transfert implicite de souveraineté des autorités légitimes à ceux qui désormais ont la capacité soit d'intimider, de créer le scandale, de transformer donc la moindre intervention des services policiers devant une personne issue des minorités. Moi, ce vocabulaire-là, racisé, je trouve que c'est un vocabulaire assez... Je l'emprunte pas, moi, des personnes issues des minorités. Apparemment, dès que la police intervient devant une personne issue des minorités, c'est nécessairement un acte de discrimination, de profilage racial, et ainsi de suite. Bon, et là, c'est le récit médiatique qui est très présent, qui est relayé par les médias sociaux. Tout ça ne veut pas dire un instant qu'il n'y a pas des injustices policières, qu'il n'y a pas quelquefois des interventions illégitimes, qu'il n'y a pas des interventions qui doivent être condamnées sévèrement. Évidemment, tout ça va de soi. Mais le fait est que généraliser ce principe d'interprétation à toutes les actions policières, ça cause problème. Et le reportage de Robida était très bien fait hier parce qu'il donnait pour une rare fois l'autre côté de la médaille en la matière. Je note que quand on regardait le téléjournal à la fin, ils se sont sentis de redonner des statistiques qui prouvant le profilage racial à la fin, sans les expliquer par ailleurs, mais comme s'il fallait corriger le propos. Hein, on le disait, c'était controversé, c'était inquiétant. Tous les mots étaient là pour enrober le reportage, mais la vérité des faits, elle était là. Et il va falloir se demander, c'est-à-dire, quand la police intervient dans certains quartiers, c'est pas, par exemple, quand elle intervient dans les quartiers que tu as évoqués, ce n'est pas par profilage racial. Ça, c'est parce que c'est des quartiers plus chauds, c'est des quartiers qui sont plus à risque, et ben, on intervient là où il faut. Je veux dire, c'est pas une question de couleur de peau, c'est qu'on intervient là où il y a question des gangs, par exemple, là où il y a la question des armes à feu. Quand les armes à feu circulent à Montréal, on va les attraper où ils sont. C'est pas une question de savoir quelle est la couleur de la peau de celui qui porte une arme. On s'en contrefiche de la couleur de la peau de celui qui porte une arme. C'est pas ça la question. Donc, je pense que là, il va falloir... Je trouvais depuis un an que les services policiers avaient trop facilement accepté le procès qu'on leur faisait. Alors moi, puis on le redit, hein, Minneapolis, c'est une autre chose. C'était condamnable sans le moindre doute, puis ce qui se passe là-bas est effectivement terrible. Mais ici, pourquoi la police de Montréal devrait-elle s'accuser de ce qui s'est passé à Minneapolis? Est-ce qu'il n'y a pas de différence de contexte minimale?
De dire qu'il y a des policiers racistes au sein du SPVM, probablement, mais de dire que le SPVM est gangréné là, par un genre de racisme systémique, je refuse de croire ça.
Ben oui, c'est surtout la théorie du racisme systémique consiste à dire qu'il faut reconnaître le racisme systémique pour avoir le droit d'entrer dans la discussion publique légitime. Et si on ne le fait pas, c'est la preuve qu'on est aveugle. C'est la preuve qu'on est de mauvaise foi. C'est la preuve qu'on ne comprend rien. Bon, encore une fois.
Et oui, et Mathieu, en terminant, ton livre La révolution racialiste est coup de cœur chez Renaud Bré. Bravo, félicitations. Ton livre dans les listes des livres les plus vendus au Québec et en France aussi, hein, faut le dire, faut le souligner. Là, il y a une gang évidemment de woke hystériques qui s'en sont pris à Renaud Bré en disant c'était épouvantable de donner le coup de cœur à un livre et un auteur aussi empoisonné que lui.
Faut dire, il arrive en retard, hein, parce que mon premier livre, la dénationalisation tranquille, avait été des coups de cœur. Mon deuxième, en fait, la plupart de mes bouquets ont été coups de cœur relobrés. C'est comme ça. Moi, j'en suis très heureux en passant, j'en suis très fier. Mais ce qui est assez amusant, c'est les termes utilisés. Certains disaient sur la page relobrée qu'il fallait utiliser mon livre comme papier hygiénique. Donc, il disait qu'il fallait le brûler. Alors, les autodafés, l'appel à l'autodafé, c'est formidable. Et là, ce qui est fascinant, c'est quand je fais remarquer que de telles appels sont inquiétants, on me dit que je jette de l'huile sur le feu. Ah ben, les gens, c'est pas moi qui ai demandé de brûler mon propre livre, là, ce que j'en sais. Donc là, on est dans cette situation. C'est, je pense que c'est Clausewitz qui disait, celui qui déclare la guerre, ce n'est pas celui qui agresse, c'est celui qui ose se défendre. Bon. Et bien, dans les circonstances, j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui le simple fait, ben, le livre en lui-même ne devrait pas exister. D'ailleurs, quelqu'un disait sur la page Renaud Bray, une société tolérante présuppose l'intolérance envers des gens comme Mathieu Bock-Côté. Bon. Alors, comme si je faisais comme certaines personnes et je passais mes journées à lire publiquement les propos haineux qui me tombent dessus, mais j'aurais passé de 24 heures dans une journée pour lire la moitié.
Non, c'est fou, Ren, mais ça, évidemment, c'est des gens qui ont lu ton livre au complet, puis que...
Ils sont probablement des apôtres de la tolérance, des apôtres de la diversité des idées, de l'ouverture à l'autre, de l'empathie. C'est normal, c'est facilement l'empathie aujourd'hui justifie bien des censures.
Là, c'est vraiment, heureusement, c'est une petite minorité de crinqués qui se crinquent et se pompent entre eux autres. Donc, bravo pour ton livre qui obtient un très grand succès. On se reparle demain, Mathieu. Salut.
Merci infiniment. Bye-bye.